Les artistes, les metteurs en scène et les enseignants font et continuent à faire du théâtre une arme de résistance.
Studio Théâtre, Laure Adler, demain soir, à partir de minuit.
France Inter présente Coup de foudre de Jacques Higelin. En concert à la Cigale à Paris du 9 au 14 mars, puis en tournée dans toute la France.
J'ai jamais su sur quel pied danser avec toi.
Retrouvez Jacques Higelin le 26 février à 11h dans Le Fou du Roi de Stéphane Bern.
France Inter, la différence.
15h04 sur Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Je voulais vous dire toute mon admiration pour ce reportage sur le Honduras, historique, magnifique pour l'information, et aussi pour l'émotion, émotion de tout ce peuple qui lutte contre le système imposé par coup d'État, armé par les États-Unis, béni par la France sans doute, de la façon la plus criminelle, puisque inavouée, secrète, hypocrite. Daniel Mermet, merci infiniment à vous et toute votre équipe.
Salut Daniel, superbe ton émission sur le Honduras, c'est pathétique. Tu sais que dans l'océan Indien, il y a un pays qui vit la même situation, c'est Madagascar, avec des putschistes, avec un DJ à la tête de l'État actuel et un président élu démocratiquement qui est en Afrique du Sud. Je te remercie, que ça réveille un peu la conscience, aussi bien en Afrique, dans l'océan Indien, en Amérique centrale, que c'est vraiment la merde maintenant. On ne peut plus s'attendre à une appui de la communauté internationale.
Bonjour Daniel et toute l'équipe, merci beaucoup pour cette émission. J'étais sur la route et j'ai eu trois quarts d'heure de frissons et d'émotions pures. Ça fait plaisir de voir des gens qui se réveillent et j'espère que ça arrivera en France, bien que ça arrive déjà, mais un peu plus visible, ça serait vraiment chouette. Merci à vous tous pour ces bons moments passés avec vous. À bientôt, ciao.
Vendredi 26, c'est le café repère de Saint-Montant. Hein, ça fait deux ans que ça dure. Vendredi, on change de formule. On ira toujours à boire et à manger, bien sûr, mais on va prendre un thème unique qui est celui de la revue de presse. On va éviter le thème unique et on va faire une revue de presse. Alors amenez tous vos articles, beaucoup de gueule, vos enthousiasmes, et on discutera toujours dans la même ambiance. On pourra aussi trouver des thèmes pour les repères suivants. Voilà, à tous, à vendredi. Merci, au revoir.
Salut Daniel, c'est Saïd de Paris. Je crois que les gens se trompent quand ils qualifient de traîtres ceux du PS qui ont répondu aux appels de Sarkozy. Soyons un peu justes avec eux. Ils ne sont pas des traîtres, mais des hypocrites. Car pour être traître, encore faut-il avoir des convictions à trahir. Il faut un minimum quand même au départ. En fait, quand ils plongent ainsi le museau dans la gamelle tendue par Sarkozy, ils ne font que rentrer au bercail. Ils tombent enfin les masques et rejoignent la droite qui est leur place et leur famille naturelle. Il faut plutôt les féliciter de cet amendement au lieu de les accabler. Ceux qui posent encore problème et dont il faut se plaindre et se méfier, ce sont tous les autres qui gardent le masque et continuent leur numéro d'hypocrisie, en occupant et en encombrant indûment une place usurpée sur l'échiquier politique français. En somme, tous les autres cadres du PS qui sont encore au PS, voire tout le PS tout entier, à part peut-être quelques militants de base. Soyons justes avec eux donc. Allez, ciao.
Oui, bonjour, c'est pour rappeler que les premiers 2 et 3 mars prochains se tiendra à Barcelone une session du tribunal Russell sur la Palestine qui jugera de la complicité de l'Union européenne à l'égard de l'impunité dont jouit Israël dans la commission de ses crimes en Palestine. Donc je pense que ce serait intéressant que Daniel fasse une émission sur cette session. Nous l'y invitons vivement. Qu'il en rende compte après aux auditeurs. Merci.
Salut les AMG. Une petite devinette. Quel est le rapport entre Noam Chomsky et la bière bio? C'est le café repère de Berlin. On donne rendez-vous ce soir aux AMG du Grésivaudan à la Brasserie du Chardon, à Berlin, pour la projection de Chomsky et le pouvoir. C'est la suite du documentaire de Daniel Mermet, Olivier Azam et Guy Van Thiel sur Noam Chomsky. Rendez-vous ce soir, jeudi 25 à 19h30 à la Brasserie du Chardon à Berlin. Vous pouvez, comme d'habitude, amener votre casse-croûte que l'on partagera pour plus de convivialité. Plus d'infos sur le site web de la brasserie.
Merci à tous, merci les amis des Repères de la Basse, j'y suis. Soyez aimables, j'oublie chaque jour de vous le dire, de nous communiquer un mail où on peut, où on puisse vous envoyer des messages. Et puis en règle générale, il y a de plus en plus de Repères de la Basse, j'y suis. On s'en réjouit bien évidemment, mais soyez courts dans les messages que vous laissez dans la boîte vocale, parce que voilà, on en reçoit beaucoup et on essaye de tous les passer, mais c'est pas toujours facile. Merci à tous aussi pour l'émission d'hier. Visiblement, ça vous a, ça, comme nous, ça vous a ému, l'histoire de ce qui s'est passé ce jour-là, ce 27 janvier, au Honduras, à Tegucigalpa, capitale du Honduras, lorsque, d'un côté, le président déchu, et déçu sans doute aussi par la même occasion, Mel Zelaya, partait, s'envolait dans son avion, mais c'était pas un vol bien gai, puisque il a été déposé par ce coup d'État du 28 juin dernier, suivi d'élections très très discutables, mais dont les résultats ont été reconnu par assez peu de pays, pratiquement aucun pays d'Amérique latine, mais reconnu par les États-Unis d'Amérique, ce qui fait dire que on entend et on sent comme une odeur de guerre froide qui revient dans cette région particulièrement violente, qui a connu des jours et des années, on peut dire des siècles, particulièrement dramatique. Le Honduras a été, vous le savez peut-être, la base arrière pour les États-Unis lors des luttes contre les guérillas du Nicaragua, du Salvador et du Guatemala. Il y a d'ailleurs toujours une base militaire importante au Honduras. Et aujourd'hui, on se dit que ce qui s'est passé là est très important, parce qu'après plusieurs années où on a pensé qu'enfin une partie de l'Amérique latine coupait le cordon avec les États-Unis et cessait d'être cette arrière-cour, eh bien, on a l'impression que le vent est reparti dans l'autre sens, malgré l'enthousiasme qu'avait pu déclencher, entraîner l'élection de Barack Obama. Et puis, il y a ce singulier président, Mel Zelaya, homme de droite, homme libéral, grand patron, grand propriétaire, qui a mené, d'une façon tout à fait étonnante, une politique sociale dans son pays, avec succès dans ce très pauvre pays qu'est le Honduras. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Honduras, dont 15% dans la très grande pauvreté, avec un taux de chômage évalué à 40%, mais l'économie est tellement informelle que je me demande comment on calcule ce genre de pourcentage. Eh bien, il avait installé un certain nombre de réformes qui ont fonctionné, qui ont marché et qui faisaient le bonheur, peut-être un peu beaucoup dire, mais enfin, en tous les cas, un mieux dans la population. Mais une minorité, eh bien, n'a pas accepté ça, et il y a eu ce coup d'État et les suites que je viens d'évoquer. Alors, il y a eu des dommages collatéraux, bien évidemment, au cours de ces 214 jours de lutte héroïque, dommages collatéraux, c'est-à-dire des victimes, des morts, des blessés et des disparus, dont on va entendre parler aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Philippe.
Oui.
T'as entendu parler des nanotrucs, les nanotechnologies?
Oui, vaguement, c'est quoi ça?
Ben, je sais pas, il paraît qu'il y en a partout maintenant. T'en as dans des boissons, t'en as dans des crèmes, on sait pas où ça va. Ou...
Partout?
Partout, oui. Ouais. Mais t'en as forcément entendu parler.
Oui, vaguement, mais bon, Ouais. Pas plus que ça. Mais je pense que si on veut en savoir plus, il faut aller au Café Repère du Vigan chez Christelle et Vincent. Le dernier jeudi de chaque mois, il y a ce Café Repère qui est absolument génial. Et cette fois-ci, c'est sur les nanotechnologies, rue de la Calade au Vigan, dans le Gard, avec un film de Julien Collin, qui sera là d'ailleurs pour participer au débat. Et ce film qui s'appelle « Le silence des nanos » est absolument modeste et génial.
Alors rendez-vous chez Christelle et Vincent au petit comptoir.
Au petit comptoir.
Salut!
Alors la réunion publique organisée par le comité de la Vallée de l'As pour le maintien et le développement des bureaux de poste menacés de suppression ou de transformation en agence postale communale aura lieu le vendredi 26 février à 18h, salle du presbytère à Estoublon dans les Alpes de Haute-Provence. Ensemble, nous devons construire le rapport de force nécessaire et lutter contre la casse des services publics engagés par ce gouvernement. En effet, cette position s'inscrit dans le cadre de la révision des politiques publiques où tout service public doit maintenant être conçu pour sa rentabilité. Nous assistons à une politique de casse des services publics et de réforme des collectivités territoriales où ce sera le citoyen qui devra mettre la main à la poche s'il veut conserver ses services publics. Aujourd'hui la poste, demain l'hôpital, l'entretien des routes, les jardins d'éveil, etc. Nous vous invitons donc à venir en discuter le vendredi 26 février à 18h, salle du presbytère à Estoublon. Merci.
Dans le vieux débat sur l'inné et l'acquis, j'ai toujours cru que l'opinion politique d'un citoyen relevait de l'acquis et pas de l'inné. Voter à droite ou voter à gauche est un choix personnel. Et quand M. Michel Charasse, qui votait à gauche avant 2007, choisit d'apporter son soutien au candidat de la droite en 2007, il choisit de fait d'être de droite. Donc parler d'ouverture à gauche concernant la nomination par Sarkozy de M. Charasse au Conseil constitutionnel, c'est de la propagande audiovisuelle qui ne grandit pas les journalistes qui se prêtent à cet enfumage.
Vous êtes à 214 jours de lutte, c'est le dernier jour de la lutte, la dernière manif.
Es el primero de una nueva etapa en la lucha.
Non, c'est plutôt le premier jour d'une nouvelle étape dans la lutte.
On a compris, les golpistes, c'est de la merde.
Alors ici, on est dans les locaux de la COFADE, le comité des familles, des détenus et disparus. Le taxi qui nous a amené ici, qui est... un taxi golpiste, hein, comme on dit, nous disait que c'était les menteurs. Voilà, lui, il appelait les COFADE les menteurs.
Le peuple conscient.
Le peuple conscient ici est présent.
L'ascenso al poder del presidente Lobo.
L'ascension au pouvoir du président Lobo.
Significa una esperanza nacional.
Est une espérance, c'est un espoir national. Voilà, c'est le coup d'état décomplexé, quoi. C'est les coups d'état new look.
Sacrificado. 42 puñaladas.
Lui, c'est le pire, c'est lui qui a été le plus sacrifié, quoi. 42 coups de couteau.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao, Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
Flight number 2, arriving from New York.
Tu ahí me parece que es necesario, es clave, es fundamental, que la condición llegue.
El futuro de los pueblos. C'est construire sin borrar la historia.
Le futur des peuples se construit sans effacer l'histoire.
Ouais.
Alors ici, on est dans les locaux de la COFADE, le comité des familles, des détenus et disparus. Il y a des pancartes, donc ça a dû servir à une manifestation derrière moi. Il y a Jairo Sánchez, 23 septembre 2009. Gabriel Fino Noriega, 3 juillet 2009. Walter Troches, 13 décembre 2009. Roger Ivan Bados, 11 juillet 2009. Francisco Alvarado, 22 septembre 2009. Pedro Madiel Muñoz, 25 juillet 2009. Gladys Espinal, 23 novembre 2009.
Isis Obed Murillo, 5 juillet 2009, c'est lui qui est tombé à l'aéroport. Mario Fidel Contreras, 2 octobre 2009. Félix Rolando Murillo, 17 septembre 2009. Ramon García, juillet 2009. Edwin Renan Fajardo, 22 décembre, toujours 2009. Carlos Arturo Turcio, 15 décembre. Roger Vallejo, 1er août. Martín Rivera Barrientos, 1er août aussi 2009. Et Olga Osiris Vélez, 30 septembre 2009.
Soldats français sont morts en Afghanistan. Pourquoi ? Et il faut lutter contre la barbarie, il faut lutter contre l'obscurantisme et il faut lutter pour la démocratie. 1000 soldats américains sont morts en Afghanistan depuis 2001. Et pourquoi sont-ils morts ? Parce qu'il faut lutter contre la barbarie, contre l'obscurantisme et pour la démocratie. Le nouveau président du Honduras est en train de mener le pays dans une direction correcte. Qui dit ça ? Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État de Washington. Le nouveau président du Honduras est en train de mener le pays dans une direction correcte. Et de qui parle-t-elle ? Du nouveau président élu suite dans des élections plus que discutables et dont les résultats, je le disais, n'ont été reconnus par aucun pays d'Amérique latine, mais par les États-Unis, et à la suite d'un coup d'État qui a été finalement approuvé par le gouvernement américain, par Washington. Et pourtant, un coup d'État, c'est pas tellement démocratique. Le fonctionnement de ce pays, le Honduras, était démocratique, à peu près démocratique, comme ces pays peuvent y prétendre. Des pays qui ont des histoires douloureuses, des pays fragiles. Mais quand même, le président Manuel Zelaya a été élu dans des conditions tout à fait acceptables, a mené sa politique dans des conditions tout à fait acceptables. Sauf qu'il a eu le tort de mener une politique qui ne convenait pas ni aux États-Unis d'Amérique, ni à Washington, donc, ni surtout à l'oligarchie du Honduras. Alors, vous voyez, la démocratie, c'est bien, mais ça a des limites. Ça a des limites. Et là, c'est ce qui s'est passé dans ce pays, le Honduras. C'est une histoire tout à fait exemplaire. Et c'est pas la première fois. Il se pourrait bien que cet étrange président Zelaya ait donné un mauvais exemple. Qu'on ait craint, qu'on ait redouté qu'il donne un mauvais exemple. Il y a en tout cas un précédent. Richard Nixon, en 1970, parle de ce qui se passe au Chili à cette époque-là. Au Chili, à cette époque-là, c'est Allende qui est à la tête du pays. Et ça, ça plaît pas beaucoup à quelqu'un comme Richard Nixon. Et il déclare ceci. La principale préoccupation avec le Chili, c'est qu'Allende consolide son gouvernement et projette ainsi au monde l'image de son succès et montre qu'il est possible de changer les choses démocratiquement. Si nous permettons que d'autres leaders pensent qu'ils peuvent faire la même chose, alors nous aurons de sérieux problèmes. Vous connaissez la suite. Le 11 septembre 1973, Allende partait pour toujours et Pinochet arrivait au pouvoir au Chili. Ça n'a pas la même ampleur, évidemment, au Honduras, mais on dirait que l'histoire se répète et bégaye. On est ensemble jusqu'à 16h, c'est la Basse Jésus.
Luchamos para vencer! vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino.
¡Oh! ¡No!
Y mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Luchamos para vencer!
¡No pasará!
214 jours de lutte héroïque contre quoi ? Contre quoi ? Contre une vague de terreur planifiée. Ça s'est pas passé gentiment, ces 214 jours. Ça s'est pas passé gentiment, ce coup d'État. Il y a des victimes. Il y a, on pense, on sait pas très bien, c'est toujours assez flou ce genre de choses. On est dans un pays violent, notamment cette ville de Tegucigalpa est une ville violente. On pense qu'il y a eu 30 victimes dans ce coup d'État, 4200 arrestations et un nombre incalculable de blessés au cours des affrontements. Il y a un certain nombre de leaders qui ont été abattus, des syndicalistes. Ça a été une histoire assez terrifiante. Encore une fois, je le disais hier, mais je le répète aujourd'hui, dans ce pays, le Honduras, qui est vu comme un pays assez placide, à la différence de ses voisins, Guatemala, Salvador et évidemment Nicaragua. Là, on est avec Berta Oliva, qui est la coordinatrice du COFADE. COFADE, c'est le comité des familles de détenus et disparus. Et vous avez compris, c'est un lieu où l'on défend les droits de l'homme et pour tout dire, un haut lieu de cette fameuse résistance.
Ellos son algunos, que no son todos, los que hemos logrado tener fotografías en vida de ellos.
Ce sont les cas pour lesquels on a réussi à avoir une photo.
Que ellos, algunos han sido asesinados en las marchas.
Certains ont été assassinés pendant les manifestations.
En las manifestaciones en pleno día.
En plein jour.
Otros han sido muertos después de una gaseada. Por ejemplo, las dos rostros de mujeres que hay ahí.
D'autres aussi sont mortes suite au gaz lacrymogène.
Y ellas tenían problemas alérgicos y murieron.
Elles avaient des problèmes allergiques et elles sont mortes.
Otros han sido asesinados por tipo escuadrones de la muerte.
D'autres ont été assassinés par des escadrons de la mort.
Y otros han sido asesinados por policías en la marcha, o sea, les hacen orden de detención, no se detienen y les disparan y los matan.
D'autres ont été assassinés, ont été tués pendant les manifestations par la police qui essaye de les arrêter. Ils refusent d'obtempérer et ils se font abattre.
En algunos casos, inclusive han ido hasta sus casas, aparecen muertos como que si se les hubiese ahorcado y aparecen que se han suicidado.
Parfois, ils ont été retrouvés pendus chez eux et c'est présenté comme des cas de suicide.
Y lo que sí es evidente que en este momento también hay mucha gente que ha sido amenazada a muerte.
Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont menacés de mort en ce moment.
Otra que ha sido detenida temporalmente y luego puesta en libertad y está en el exilio.
D'autres aussi ont été détenus quelque temps et maintenant ils sont en exil à l'extérieur.
Solo para decirle algo, tenemos 708 expedientes abiertos de víctimas sin poder darle el seguimiento debido a las denuncias que han interpuesto.
Aujourd'hui, on a recueilli 700 plaintes pour violation des droits de l'homme.
Desde el día 28 de junio a la fecha.
Depuis le 21 juin jusqu'à aujourd'hui.
Estamos desbordadas de trabajo.
On est débordés de travail.
Necesitamos dar una respuesta a las víctimas de esta dictadura.
Nous avons besoin de donner des réponses aux victimes de cette dictature.
Estamos conscientes que no podemos ejercer mucho el derecho porque todas las estructuras que están a cargo de ejercer la acción penal son miembros o miembros de los que dieron el golpe militar de Estado.
Mais on peut pas utiliser le droit traditionnel parce que la plupart des instances du droit sont gérées par les membres du putsch.
C'est ça. On peut pas avoir confiance en la justice de ce pays.
Non, voyons. Non. La justicia en el país está operando al servicio de los que dieron el golpe militar de Estado.
La justicia trabaja al servicio de ceux qui ont donné le coup d'État.
Estamos en indefensión.
Donc on est hors de toute protection.
El tema que nos ocupa es el tema de las violaciones a los derechos humanos.
Mais nous ici, on se bat contre la violation des droits de l'homme.
Que doblemos la página.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tourner la page.
Que no nos acordemos.
Qu'on oublie.
Que por una ley de amnistía, digamos, ya no queremos olvidar, tampoco, ya no queremos recordar.
Qu'une loi d'amnistie fasse qu'on oublie et qu'on refuse de se rappeler.
Y vamos a perdonar.
Et on va pardonner.
Y perdonar a cambio de qué?
Et pardonner en échange de quoi?
Se puede llegar a acuerdos en materia de cambios políticos estructurales.
Parce que je pense qu'on peut arriver à des accords sur des changements politiques structurels.
Pero no se puede negociar. El tema de vida, por
ejemplo. Mais on peut pas négocier sur la question de la vie, de la mort et de la violation des droits de l'homme.
Des viols sexuels,
des agressions sexuelles.
Por ejemplo, yo no sé cómo se podría manejar cuando a una muchacha la detuvieron, le cayeron cuatro militares, o sea, la violaron cuatro militares.
Pour une
jeune
femme qui a été violée par quatre militaires.
Y después de eso le introdujeron uno de los toletes que cargan para golpear a la gente en su parte.
Et après,
¿se podrá negociar una cosa de esas?
Ils ont introduit la matraque dans le corps. Est-ce qu'on peut négocier dans ces conditions-là?
Eso no es política. Eso es barbarie.
C'est de la barbarie.
Eso es barbarie.
Está escuchando la gente ahí. Muchos presidentes quieren dialogar con él ahí en República Dominicana. Y lo más importante es que el pueblo sepa que el presidente, su retorno será muy pronto aquí al país, que se va, pero que pronto volverá, porque he visto gente ahí que lo quiere, le demuestra cariño. Fíjese que hay muchas mujeres, muchos hombres que han llorado por lo que le está ocurriendo al presidente. Dice, lo están sacando de su patria, lo están volviendo a expatriar.
La dinámica del ejército y la dinámica de la policía era matar o asesinar a gente de bajo perfil.
La estrategia del militar es de tuer des leaders emergentes. Pourquoi une telle barbarie?
Una para meter el terror a la mucha gente que había ahí.
C'est ça, c'est pour créer un climat de terreur et pour terroriser tous les gens qui étaient là.
Alors ça, c'est Pedro Magdiel Muñoz, 25 juillet 2009.
Sobrino.
C'est mon neveu.
Ocurrió, dice que los militares lo agarraron a él.
Donc les militaires l'ont attrapé.
Sí, lo agarraron, de ahí lo tuvieron preso.
Donc ils l'ont détenu, ils l'ont emmené en prison.
Sí, y de ahí dice que, bueno, de ahí apareció muerto él, ¿verdad?
Et on l'a retrouvé mort.
42 puñaladas, dice que...
Il a été poignardé, oui. 42 coups de couteau.
Et vous pensez que c'est la police?
La policía y el militar está todo.
C'est la police ou les militaires, c'est pareil, quoi.
Porque ellos lo agarraron, ¿verdad?
Mais c'est eux qui l'avaient arrêté.
Los papás de ellos eran muertos, pues nosotros los creamos, mi mamá y yo,
sa tía. Donc, il était orphelin, c'est nous qui l'élevions.
Quel âge il avait?
23 años tenía.
23 ans il avait.
Era albañil.
Il était maçon.
Et vous avez fait des démarches pour savoir quelque chose, pour savoir la vérité?
De ahí no hemos sabido nada porque dijeron que iban a investigar.
Donc, ils ont dit qu'ils allaient faire des enquêtes.
Y hasta la vez no sabemos nada.
Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles.
Aucune nouvelle.
Nada, nada de noticias.
Rien, aucune nouvelle.
Depuis le mois de juillet.
Julio, el 25 de julio.
Depuis le 25 juillet.
Il y a eu d'autres cas semblables?
Él fue el más sacrificado.
Lui,
42 puñaladas.
Lui, c'est le pire, c'est lui qui a été le plus sacrifié, quoi. 42 coups de couteau.
Vous avez aucune confiance et aucun recours?
Non, non, confiamos en la justicia porque
non,
lo que
on
nos
pas
hicieron...
confiance.
Il faut dire qu'on est en train de regarder cette photo, mais il y en a beaucoup d'autres autour de nous. Il y en a beaucoup d'autres, il y a une vingtaine au moins de... qui sont les victimes de ce coup d'État, puisque ce sont des gens qui, comme ce garçon, ont été assassinés, disparus, sans qu'on ait de nouvelles d'eux, au cours de ces 200 jours de lutte. Est-ce qu'il faisait de la politique? Il était dans un parti politique, dans un syndicat, dans un mouvement?
Sí, era un líder porque era bien activo.
Oui, c'était un leader, il était très actif.
Estaba, verdad, en contra del golpe, verdad? Por eso lo hayan matado, digo yo.
Moi, je pense que c'est parce qu'il était effectivement contre le coup d'État qu'ils l'ont tué comme ça.
Est-ce que vous avez eu des menaces?
Por teléfono preguntaban de mi mamá, ¿verdad? Pero ella siempre por miedo, ella decía, no, no sé nada, decía mi mamá, ¿verdad? Por siempre por miedo, porque a veces la gente
nos decía. On a reçu des coups de téléphone et ils nous demandaient des choses, mais ma mère, qui était terrorisée, elle disait toujours, je sais pas, je sais rien. C'est la peur qui nous paralyse.
Aquellos que perdonaron porque lo expatriaron y porque en la Constitución ya se establece que nadie puede ser expatriado de su patria y aquí como no condenan a nadie, como aquí no castigan a nadie, sino veamos el ejemplo claro, porque hay que Rafael explicarle al pueblo que al presidente de la República no sale huyendo, el presidente de la República va en este momento a salir de la embajada como todo un hondureño.
C'est terrible cette ambiance-là. On arrive là, et ce garçon qui tient devant nous une chemise, c'est la chemise de son frère, qui a été perforé de coups de couteau. Et puis il y a des femmes assises, là, contre le mur.
Esta fue la
puñalada que le... Ça, c'est la chemise qu'il portait quand il a été assassiné par la police.
Quand lo asesinaron.
Donc là, on voit tous les coups de couteau.
52 puñaladas.
52 coups de couteau.
Y 4 balas.
Et 4 balles.
La calibre 22 era algo así, chiquitas.
Des petits calibres.
Comment ça s'est passé? Pourquoi?
Él estaba en la resistencia.
Lui, il était dans la résistance.
Y él iba por traer a nuestro presidente, pues.
Donc lui, il était allé accueillir le président qui
y
essayait de rentrer.
Recibió tortura y ya ve, como pueden ver, lo mataron.
Et lui, il a été torturé et après
porque
il a été massacré.
Hubo violencia bastante ahí.
Là, ça a été très violent. Bastante.
Dommages collatéraux de ce coup d'État au Honduras et de la résistance populaire, une vraie résistance populaire. Sur les mœurs des militaires du Honduras et plus généralement de l'Amérique latine, n'oublions pas ce que fut l'école des Amériques qui a été créée en 1946 et qui a formé tous les militaires, tous les officiers latino-américains aux doctrines de la contre-insurrection basée sur un anticommunisme mais mystique. C'était vraiment une formation mystique. Et tous les militaires qui ont organisé des coups d'État en Amérique latine au cours de la deuxième moitié du XXe siècle sont passés par cette école militaire des Amériques. Mais elle fonctionne toujours. Elle était basée au Panama. Maintenant, elle est en Géorgie, aux États-Unis, et elle s'appelle l'Institut de l'hémisphère occidental pour la sécurité et la coopération. Mais elle est toujours là. Et les officiers des armées de la plupart de ces pays, eh bien, ils sont formés avec des méthodes qui sont assez proches de la barbarie. Il faut rappeler que dans cette école des Amériques, on a eu on peut être fier de ça, des Français qui ont fait de la formation, certains officiers, ex-OAS, des gens comme Ozares, par exemple, ont dispensé leur savoir-faire. Là, on est dans cette maison très, très pauvre, maison des faubourgs de Tegucigalpa, capitale du Honduras, avec cette famille frappé par le deuil, ce garçon qui a été tué, alors qu'il allait au-devant du président qui a essayé à plusieurs reprises, en vain, de revenir dans son pays.
Je l'ai peinté, l'esposa de mi prima la fabricó.
C'est
así.
Moi qui ai peint la croix pour mon frère. Et c'est l'époux de ma cousine qui l'a fabriqué en fer, qui l'a soudé.
Et lo que pasa que no le he podido puesto porque yo lo que quiero simplemente es echarle cemento por todo aquí para que se pueda durar más. Y como hemos estado ratificamente de dinero y necesito ir a ponérsela también, entonces por esos recursos que no tenemos, no hemos podido.
Ya moi, ella va sobre... la terminer, donc je voulais la remplir de ciment pour qu'elle soit plus lourde et qu'elle dure plus longtemps. Mais comme on n'a pas les moyens, on attend un peu pour la mettre sur la tombe de Pedro, Pedro MacVielle.
À force, on finit par plus réaliser tellement ce qu'on voit et ce qu'on fait, quoi. Là, on est dans une famille plus pauvre quand même, c'est difficile à trouver. Il y a des trous dans la tôle qui fait la toiture. Là, il y a le foyer, c'est quatre briques, deux planches dans lesquelles la grand-mère fait un peu de feu. Il n'y a pas d'eau potable, il y a un petit peu, là on arrive à avoir un tout petit peu d'eau pour laver un peu, enfin c'est une, il n'y a pas de sanitaire, il y a enfin, la misère totale. Il y a des bâches en plastique là qui mettent pour dissimuler les lits, les endroits où on dort. Et là il y a quand même cette croix, c'est la croix de ce garçon de 26 ans qui a été assassiné de 54 coups de couteau, tout ça parce qu'il se rendait une manifestation pour le retour d'un président qui a été déchu et qui a été viré par le coup d'État, quand même. On réalise pas, quoi. On finit par plus réaliser. Et maintenant, ils n'ont plus rien, parce que ce garçon, en plus, c'était une ressource pour les femmes, enfin, pour toute la famille. Et ils n'ont plus rien. Ils n'ont simplement plus rien, plus que leurs yeux pour pleurer. Et je crois qu'ils pleurent même plus, là. C'est sec. Monstruosité.
MacVielle se fue en los buses que iban de Unificación Democrática, en esos buses que manejaba Marvin Ponce. Entonces él se fue en esos carros que iban trasladando a las personas, pero que a la vez por los retenes no los dejaron pasar. Entonces tuvo que caminar la gente por las montañas a pie para llegar a la frontera Arenales donde estaba.
Pedro MacVielle, il voyageait dans les bus qui avaient été affrétés par l'Unificación Democrática, le parti, donc qui partait au nord du pays, à la frontière du Nicaragua, pour accueillir Manuel Zelaya qui voulait rentrer. Mais ces bus avaient été arrêtés par des barrages de police et ils avaient été obligés de continuer à pied par les montagnes.
Lo agarraron donde estaba con mucha gente en un patio de una casa. Lo fue la policía, lo agarró.
Et la police l'a arrêté quand ils étaient dans une maison, ils étaient dans la cour d'une maison.
Era familiar de la resistencia y conocido de la resistencia porque en la resistencia aprendimos a conocernos todos de dónde éramos y a tener códigos de cuidado
también. Parce qu'il était très actif dans la résistance, elle s'était en train de devenir un des leaders de la résistance d'ici, du secteur.
La dinámica del ejército y la dinámica de la policía era matar o asesinar a gente de bajo perfil.
La stratégie des militaires, c'est de tuer des leaders émergents.
Sí.
Pourquoi une telle barbarie? Pourquoi autant de coups de couteau?
Una para meter el terror a la mucha gente que había ahí.
C'est ça, c'est pour créer un climat de terreur et pour terroriser tous les gens qui étaient là.
Bueno, la gente se personó a la posta policial para preguntar por MacVielle y dijeron que la medianoche lo habían dejado ir.
Les manifestants, la résistance, sont allés au commissariat pour prendre des nouvelles de Pedro MacVielle et la police a dit qu'il l'avait relâché dans la soirée.
Al siguiente día lo fueron a encontrar con los 50 y tantos puñaladas más los 4 disparos al monte cercano de donde estaba toda la gente de la resistencia.
Et le lendemain matin, il a été retrouvé mort des 54 coups de couteau et de 4.
No registraron la detención de
MacVielle. Et de 4 coups de feu dans un endroit qui était proche de l'endroit où était la résistance.
Pero hay testigos y testigas de la aprehensión que el ejército tuvo hacia la persona de MacVielle.
Donc il n'y a aucun témoin de l'assassinat, mais il y a beaucoup de témoins de l'arrestation de MacVielle.
Que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental. aquel que nunca moría, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria. Y no
C'est le tri sélectif qui est effectué par les anciens.
Estos van para los Estados Unidos.
Entonces, ces vieilles bouteilles, elles partent aux États-Unis.
Yo, pues, estando recogiendo, pidiendo esto.
Donc, moi, je les ramasse dans les maisons, je les demande. Donc, c'est que des bouteilles de soda, donc des colas d'hiver.
Yo consigo una más de aquí, llevo dos sacos de estos.
Donc aujourd'hui, j'ai récupéré bien. Deux sacs complets.
Cada saco creo que me da como unas 18 libras.
Alors, combien vous gagnez par jour?
Non, según lo que recoja.
C'est selon ce que je ramasse.
Esto. Lo que manda es esto.
Voilà.
¿Cuántos saquitos?
Combien de sacs j'ai rempli?
De aquí me llevo dos sacos.
Alors, en général, j'arrive à remplir deux sacs.
Dos sacos, sí. Y estaban dando un bono.
Avant, avec
Zélaïa,
on nous donnait
Un
bon, une aide.
Quanto le daban? Pero ahora solo me dan 600 pesos.
J'avais droit à 600 livres par an. C'était une aide de Mel Zélaïa. Mais maintenant, ils ont supprimé. On n'a plus rien. C'est Micheletti qui a supprimé l'aide aux anciens. Et maintenant, on n'a rien. C'est grâce à mon travail de récupération de bouteilles que j'arrive à payer mes frais quotidiens.
Compro ahí tortillitas y un poquito
alors,
de mantequilla.
Alors, je mange un peu quelques tortillas dans la rue. J'achète des tortillas et je mange un petit bout de beurre.
Me la soco.
Et quand je vends rien, et ben, je serre la serrure. Je la saute.
Después de este golpe de estado, después del segundo Mich, porque tenemos un segundo Mich, tenemos un Mich natural y un Mich político.
On a eu deux catastrophes. Le premier Mich qui était une catastrophe naturelle et le deuxième qui est le Mich putschiste, qui est une catastrophe politique.
Me lo mandó el grupo de Amnistía, que son amigos.
C'est le groupe d'Amnesty qui me l'a envoyé, ce sont des amis. On me l'a envoyé de Belgique, ça.
À côté du Tché. Qui c'est celui-là?
Este es Martí.
Ça, c'est Martí. Le Tché avec des yeux de, on dirait comme un saint qui regarde le paradis, l'international. Une femme crucifiée enceinte, ça, c'est vous, Berta?
Mi marido desapareció. Yo tenía apenas 3 meses de embarazo, 4 meses de casado.
Entonces... Quand mon mari a disparu, moi j'étais enceinte de 3 mois et mariée depuis 4 mois avec mon mari.
Hasta la fecha lo busco.
Et jusqu'à aujourd'hui, je le cherche toujours.
Disparu. On avait rencontré ça des années déjà en Argentine. On trouve ça dans pas mal de pays en Amérique latine et dans le monde aussi. Disparu. Et là, on est à nouveau avec Berta Oliva après avoir rencontré ce vieux monsieur dans les rues d'un quartier de Tegucigalpa qui s'appelle Pantanal et qui donne une idée de la du niveau de vie des Honduriens. Donc nous en voilà avec Berta Oliva, je le disais, au COFADE, c'est-à-dire au Comité des familles de détenus et disparus du Honduras, et elle évoque son mari qui était un homme qui était dans la guérilla, dans sa jeunesse, à lui et à elle, et qui a disparu sur la porte de son bureau. Il y a là une peinture qui représente la silhouette d'un homme jeune, magnifique, et qui est cet époux. Et voilà pourquoi elle est devenue la coordinatrice, la directrice de ce centre et qu'elle se bat.
Es una lucha muy larga.
C'est une lutte très longue. Oui.
Iniciamos en 1981.
On a commencé en 81.
Y hemos por la búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia
y fundamentalmente. Chercher la vérité y la justice.
Mira, mi marido era un revolucionario.
Mon mari était révolutionnaire.
Cuando él desapareció era coordinador. général de la Union Révolutionnaire du Peuple.
Quand il a disparu, il était coordinateur de la URP, l'Union Révolutionnaire du Peuple.
Il fut siempre, de sus 17 años, un convencido transformador de las injusticias de nuestro país.
Lui, depuis son plus jeune âge, depuis 17 ans, il était persuadé, convaincu qu'il fallait transformer les injustices sociales du pays.
Siempre soñó con ver a niños con techo.
Il a toujours rêvé de voir des enfants sous un toit, pan, des enfants avec du pain, qui puissent manger du pain, des enfants qui puissent aller à l'école,
salud,
et des enfants en bonne santé.
Porque creyó que la juventud, que los niños no son futuro, son presente.
Parce qu'il a toujours dit que les enfants, c'est pas le futur, c'est le présent. Et c'est sur ce projet que je l'ai épousé.
Y bueno, pensar en aquella época, con esa visión, era apostarle à la disparition forcée. Et avec mon mari, c'est accompli.
Avoir ces options politiques à cette époque-là, il y avait un grand risque de disparaître, et c'est ce qui est arrivé à mon mari.
Il avait été menacé et avait été séquestré.
Il avait été déjà menacé et séquestré plusieurs fois.
Quand il disparaît définitivement,
en 1981, définitivement en
81, était en condition de clandestino parce qu'il avait survécu 6 mois atrás de une torture sauvage par part de l'exército.
Il était en situation de clandestinité parce qu'il avait subi des tortures atroces par l'armée quelques mois avant.
Por eso, la desaparición forzada de Tomás no solo fue única, se dieron muchas desapariciones en Honduras de hombres jóvenes y de mujeres también muy valientes que decidieron alzar su voz.
La disparición de Tomás n'a pas été isolée. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes courageux qui ont disparu à ce moment-là en Honduras parce qu'ils ont décidé d'élever la voix.
Honduras era y sigue siendo una nación tan ocupada y era en ese momento un punto y un lugar estratégico para los propósitos de los Estados Unidos.
Déjà à l'époque, le Honduras était une zone occupée et très stratégique pour les intérêts des États-Unis.
Y desde luego sobrevivimos algunos, mi marido no pudo sobrevivir, yo soy una sobreviviente de esa
Mais
barbarie.
Mais on est quelques-uns à avoir survécu, mon mari n'a pas survécu, moi j'ai survécu.
A la presencia de 7 ejércitos.
À la présence de 7 armées ici.
Que todavía está una de las bases más fuertes.
Il y a toujours une des bases les plus importantes.
La base de Palmerola.
La base de Palmerola.
Entonces, no fue fácil vivir y sobrevivir. No fue fácil en esa época.
Ça n'a pas été facile de vivre et même de survivre à cette époque-là.
La salita pequeña que está abajo, que recogemos los rostros de las nuevas víctimas de la dictadura actual.
Et là, on présente les portraits des nouvelles victimes de la dictature actuelle.
Y que podemos llamar las víctimas del siglo XXI.
Et qu'on peut appeler les victimes du 21e siècle.
Yo sí creo que tenemos grandes retos.
Je crois qu'on a des grands défis en ce moment.
El más grande es salir vivo.
Le plus grand défi, c'est de rester vivant.
Y una vez que salgamos vivas de este sistema injusto.
Et quand on sortira vivant de ce système injuste.
Y de esta impunidad en que se vive. Entonces vamos a poder quizá encontrarnos nuevamente.
Et on pourra peut-être se retrouver à nouveau. Reparler de la question des droits de l'homme.
Tracé ya mi camino.
Moi, j'ai tracé mon chemin.
No hay forma que me aparten de
eso. Et on ne pourra pas me faire dévier.
No hay nada más grotesco que lo que se está viviendo en Honduras.
Il n'y a rien de plus grotesque que ce qu'on vit en ce moment en Honduras.
Nos están diciendo que ya hay un gobierno electo democráticamente.
On nous dit
qu'il
y a un gouvernement qui a été élu de façon démocratique, transparente, cristalline.
Ninguna de esas tres cosas se dieron para elegir al gobierno que está ahí en casa presidencial.
Et tout ça, c'est faux. Toutes ces trois choses sont fausses en ce qui concerne l'élection du président actuel.
Para lograr que la coopération internationale empiece a desembolsar.
Pour que la coopération internationale remette la main à la poche.
Y eso me parece que si la coopération internationale de inmediato inicia el proceso de desembolsar proyectos.
Et si la communauté, la coopération internationale commence à verser des fonds à ce gouvernement,
sin antes verificar cómo se está llevando la situación en materia de derechos humanos,
sans vérifier avant la situation des droits de l'homme ici,
sin antes hablar permanentemente con la resistencia nacional,
sans parler avec la résistance nationale,
la cooperación sencillamente va a estar desembolsando dinero
para que sigan matando a este pueblo.
La coopération internationale va débourser de l'argent uniquement pour que des hommes continuent à être abattus dans ce pays.
C'est ça. La coopération a été partiellement suspendue, si j'ai compris, à cause du coup d'État, mais le soutien international risque de revenir, et à ce moment-là, ça vaudra caution pour ce gouvernement issu du coup d'État.
Pero si va a seguir pasando que van a continuar matando la gente, fundamentalmente los miembros de la resistencia.
Mais ils vont continuer à tuer les gens ici, et notamment les gens de la résistance.
La intolerancia va a continuar.
Et l'intolérance continuera.
No se le va a permitir al pueblo que se levante.
Non, on ne permettra pas au peuple de se lever.
Hacer posible su sueño, por ejemplo,
qu'il puisse faire réalité son rêve.
Una constituyente.
De créer une assemblée constituante.
Pero una constituyente que no la nombre ni la elija el gobierno así mais, como está eligiendo.
Mais une assemblée constituante qui ne serait pas élue par le gouvernement actuel.
Así como está eligiendo a quienes lo acompañan en su gabinete, y eso no es integración.
Comme ils sont en train d'élire et de choisir les gens qui les accompagnent dans le cabinet ministériel, c'est de la cooptation.
L'essentiel de ce soutien, c'est les États-Unis, c'est le président Obama. Il y a un an, je suis sûr qu'ici, vous étiez fou de joie en voyant le président Obama élu.
Mire, yo no sé si yo tenía esperanza, si nosotros como pueblo teníamos esperanza.
Moi, je sais pas si on a eu vraiment beaucoup d'espoir dans le gouvernement d'Obama, jamais.
Es posible que tuvieran se vendiera esa imagen.
C'est possible qu'on ait vendu cette image aussi, cette idée.
Pero nosotros que somos sobrevivientes y que sabemos cómo opera el Pentágono.
Et qui savons comment opère le Pentagone. Et comment opèrent les
más
forces
conservadoras,
les plus conservatrices
del
continent.
Y ahora casi me atrevo a asegurar del mundo.
Et maintenant, je dirais même du monde.
Sabemos que están vinculadas, que tienen fuerza.
On sait qu'elles
que
sont en contact.
Que generen beneficios colectivos para el pueblo.
Et tous les changements qui proposent des bénéfices collectifs pour le peuple, ils y résistent.
A los pueblos se nos pone muy difícil.
Pour le peuple, la partie devient très difficile.
Es posible que el presidente Obama ahorita sabe que si se pone a hacer cosas que no estén aprobadas en el Pentágono, puede correr la misma suerte de Mel Zelaya, posible.
Peut-être que Obama sait bien que si il est pas aux ordres du Pentagone, il pourrait lui arriver la même chose qui est arrivée à Mel Zelaya aujourd'hui, ici.
Cumbia.
La cumbia d'Obama.
Solamente Obama esperanza.
Así.
Solamente Obama.
Seul Obama est l'espoir. Qui va changer les choses? Qui va ramener les troupes?
Se fueron miles a pesar de eso, lejos llegó. Trabajando arduamente de la universidad.
En travaillant dur à l'université, il s'est diplômé. Dans la rue de Chicago, avec la communauté, il a travaillé. Dans les églises, il a aidé des gens comme toi et moi. Qui va changer les choses? Qui va nous permettre de rentrer chez nous? Il est l'heure de changer, on ne peut plus attendre. Enfants, pères, citoyens, depuis la montagne jusqu'à la mer. Dans le monde du futur, nous serons tous. Le droit à la santé, l'éducation pour tous, la sécurité nationale. C'est possible.
Solamente Obama esperanza.
Si.
Seul Obama est notre espoir.
L'Obamania n'est plus ce qu'elle était. Peut-être que le président Obama lui-même s'en aperçoit. En tout cas, la résistance, la résistance et la lutte pour la vraie démocratie, pas la démocratie qui ressemble aux missions civilisatrices de jadis, quand on arrivait avec la Bible pour coloniser les pays. Le boulot pour la vraie démocratie, c'est long, c'est dur, mais on s'y consacre. Exemple, Berta Cáceres. Berta Cáceres, c'est une jeune femme de la Copine. La Copine, c'est le Conseil civique d'organisation populaire et indigène du Honduras. On n'a pas encore parlé des indigènes. Berta Cáceres. Retrouvera demain, il est 15h58. C'était un reportage avec Antoine Chao, Catherine Pinto et Antoine Chao ont monté cette émission. Merci à Berta Olivia, merci à la famille de Pedro Magdiel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org. Vincent Godard et Gaël Braouzek étaient à la technique aujourd'hui. Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et c'est Céline Rouzet qui, provisoirement, attend vos messages au répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.
T'es sûr de ça?
Mais oui, je te le dis, ils vont prendre une déculottée.
Ok, ok, ça va. Bon, file-moi le stylo, que je remplisse ce bulletin.
Tiens, attrape.
Mais c'est quoi ce tir là? Oh, c'est pas cadré du tout ça.
Mais c'est toi qui as manqué la réception.
Je manque la réception, arrête un peu, je t'ai démarqué là, j'étais tout seul. Et puis c'est quoi ce stylo? C'est pas homologué ça.
Mon stylo? Pas homologué? Si tu savais tous les matchs qu'il a fait, tu...
Tu me fais mal là.
Faites le match avant le match et rendez-vous dans plus de 24 000 points de vente FDJ avec Paris On Sport. Paris On Sport, mieux parier pour mieux gagner. FDJ.
Voilà, il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h. Là-bas, si j'y suis toujours au Honduras, je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Alors que le conflit des aiguilleurs du ciel se poursuit en France, quatre syndicats de pilotes d'Air France ont confirmé tout à l'heure leur appel à la grève à partir de demain et jusqu'au 1er mars, c'est lundi prochain. Les discussions entre la direction de la compagnie et les syndicats n'ont rien donné. Le conflit porte sur le projet NEO de refonte des courts et moyens courriers. Pas d'avancée non plus donc du côté des contrôleurs aériens dont la grève pourrait durer jusqu'à samedi matin prochain, 8h. Après la fin de la grève dans 5 des 6 raffineries du groupe Total, la situation redevient quasi normale dans les stations-service. À 14h, seules 74 d'entre elles sur les 2500 du groupe n'avaient pas encore été totalement ravitaillées. Mais c'est une question d'heure selon le pétrolier. À Alger, c'est un différend entre le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, et l'un de ses collaborateurs qui a tourné au drame ce matin. Ali Tounsi a été tué par balle par cet homme lors d'une réunion qui se tenait au siège de la police à Alger. On ignore encore les raisons de cet accès de violence. Deux autres personnes auraient été blessées dans la fusillade qui s'en est suivie. L'actualité à l'étranger, toujours avec en Italie la nappe de pétrole qui s'est déversée dans le plus grand fleuve du pays, le fleuve Po, et qui a atteint cet après-midi la province de Parme, la plus grande région agricole du pays. Selon les autorités milanaises, 2,5 millions de fuel se sont déversés dans les eaux du fleuve. Cette marée noire est l'œuvre de saboteurs, semble-t-il. Des inconnus ont ouvert, selon la police, les vannes d'une ex-raffinerie près de Milan, et cela pour une raison encore non déterminée. Après 3 ans de brouille entre nos deux pays, Nicolas Sarkozy a scellé les retrouvailles avec le Rwanda. Le chef de l'État français a conclu son bref séjour à Kigali par un discours dans lequel il a détaillé, comme il ne l'avait jamais encore fait, la part de responsabilité de la France et de la communauté internationale dans le génocide de 1994. Nicolas Sarkozy n'a pas prononcé d'excuses comme certaines victimes rwandaises le réclamaient, mais il a reconnu de graves erreurs d'appréciation, une forme d'aveuglement à l'époque, ainsi qu'une intervention militaire française, l'opération turquoise, intervenue selon lui trop tard. Un peu plus tôt, le président français s'était incliné devant les victimes du génocide des Tutsis en visitant le mémorial où sont inhumées plus de 250 000 d'entre elles. En France, les chiffres du chômage en janvier ne sont pas bons. 20 000 personnes ont en effet perdu leur emploi. Dans un communiqué, la patronne du PS, Martine Aubry, raille les propos du président Sarkozy qui, dans son émission télévisée face aux Français, avait assuré en décembre que le chômage baisserait dans les prochaines semaines. Elle dénonce l'inactivité du gouvernement et réclame des mesures urgentes, à la fois pour soutenir la consommation, mais aussi pour aider les Français confrontés à la crise sociale. On connaît la liste des joueurs de l'équipe de France de football, sélectionné pour jouer un match amical contre l'Espagne. Ce sera mercredi prochain au Stade de France. Raymond Domenech a rappelé Franck Ribéry à thème Ben Arfa, mais se passe une nouvelle fois de pratique de Patrick Vieira.
Demain, à partir de minuit, Studio Théâtre avec Laure Adler.
un studio théâtre spécial consacré entièrement à l'art du théâtre en Iran, au moment même où ce pays voit une situation politique difficile, comment les comédiens, les artistes, les metteurs en scène et les enseignants font et continuent à faire du théâtre une arme de résistance.
Studio Théâtre, Laura Adler, demain soir, à partir de minuit. France Inter présente Coup de foudre de Jacques Higelin. En concert à la Cigale à Paris du 9 au 14 mars, puis en tournée dans toute la France.
J'ai jamais su sur quel pied danser avec toi.
Retrouvez Jacques Higelin le 26 février à 11h dans Le Fou du Roi de Stéphane Bern. France Inter, la différence.
Il est 16h04 sur Inter, c'est l'heure de poursuivre cet après-midi avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Dans un petit moment, quand même, à 16h30, je recevrai le très grand pianiste Philippe Cassard pour son dernier disque consacré à Johannes Brahms, les pièces pour le piano. Et c'est non seulement un grand pianiste, mais un philosophe et un brillant conteur et pédagogue. Pour commencer, ben voilà, bonne fête au Roméo. On sait bien que c'est pas le Roméo de Roméo et Juliette qu'on célèbre aujourd'hui. C'est pas celui de Shakespeare, mais en musique, ce sont bien les amoureux Roméo et Juliette qui ont été transcrits, qui ont été montrés, magnifiés parfois. Et vous avez entendu récemment déjà, pour la Saint-Valentin, un extrait du Roméo de Berlioz. Hier, un extrait du Roméo et Juliette de Prokofiev. Alors pourquoi pas tout de suite un passage du Roméo et Juliette de Tchaïkovski. D'abord, chant d'amour, et puis évidemment, le combat, puisqu'on sait que les familles sont opposées, malheureusement. En tout cas, une musique extrêmement sensible, touchante, voire déchirante. Un extrait du Roméo et Juliette, grande page symphonique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, par l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé par Leonard Bernstein. Il se trouve que, parmi les nouveautés, un disque de Diana Damrao, fameuse soprano, qui commence justement par un extrait de Roméo et Juliette de Charles Gounod. Alors, je rappelle que Roméo, celui qu'on célèbre, c'était un saint et un philosophe, rien à voir avec ce jeune homme passionné décrit par les dramaturges et les musiciens. Et le premier air de ce disque, donc, c'est pas Roméo, c'est Juliette qui s'exprime. « Ah, je veux vivre », chante-t-elle, parce qu'elle sait que quand elle va commencer à entrer dans l'amour, il va y avoir des soucis. Pour l'instant, elle voudrait bien échapper à tout ça. Et elle veut vivre dans le rêve qui l'enivre. « Ce jour encore, douce flamme, je te garde dans mon âme comme un trésor. Cette ivresse de jeunesse.